Restons debout pour un moment de prière, inclinant nos têtes. Bien, Dieu bien-aimé, nous estimons que c'est un grand privilège que d'être ici ce soir, en cette occasion, afin d'apporter un Christ vivant à un monde et une génération mourant. Nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir oindre nos paroles et nos efforts afin qu'ils ne retournent pas à toi sans effet, mais produisent l'effet pour lequel tu les as envoyés. Aide chaque homme, chaque femme, chaque garçon ou fille qui se trouve ici ce soir et qui est dans le besoin. Et Père, nous savons que nous sommes tous dans le besoin. Et lorsque nous partirons ce soir, puissions-nous ressentir dans nos cœurs que ce que ressentaient ceux qui revenaient d'Emmaüs après avoir été témoins de la résurrection de Christ et qui disaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en chemin tandis qu'ils nous parlaient? Tandis qu'ils nous parlaient, accorde le Seigneur, guéris les malades et les affligés, puisse-t-il ne plus y avoir aucune personne faible parmi nous après le service de ce soir. Et surtout, puisse-t-il ne plus y avoir un seul incroyant, Seigneur, puisse-t-il tous croire pour la vie éternelle, car c'est ce but que nous sommes. Car c'est dans ce but que nous sommes rassemblés ici. Ce sont des bénédictions que nous te demandons de nous accorder pour l'honneur du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cela fait du bien d'être de retour ici ce soir. Je vois que quelques-uns sont debout là autour et je pense que des magnétophones sont maintenant allumés dans différentes villes du pays, à San Francisco, à Tucson, là-bas à l'est. Par le moyen du téléphone, nous envoyons des salutations à ces auditeurs. Ce soir, nous sommes dans l'auditorium. L'auditorium principal est plein, ainsi que les ailes du bâtiment. Beaucoup de gens se tiennent debout contre les murs. Et demain soir, nous pensons essayer d'ouvrir le gymnase de ce côté afin d'obtenir une plus grande salle qui pourrait peut-être contenir 2000 personnes de plus. Nous espérons pouvoir faire cela demain soir, puisque ce premier soir, la salle est pleine. Eh bien, nous croyons que demain, il y en aura encore davantage. Je vois que même ce soir, ils mettent des chaises en plus et tout cela. Nous attendons à de grandes choses. Tout d'abord à la venue du Seigneur Jésus-Christ, puis au salut des âmes perdues qui vont le recevoir ce soir et qui seront prêtes pour sa venue lorsqu'il apparaîtra. J'aimerais particulièrement saluer et accueillir tous ces hommes distingués qui se trouvent sur l'estrade et dont j'ai compris que la plupart étaient des pasteurs. Il y en a 200 ou même davantage qui sont installés là et nous sommes certainement reconnaissants qu'ils soient ici. Je m'adresse à vous de quelques endroits du pays que vous veniez et je crois que certains venaient d'outre-mer. Nous vous sommes donc reconnaissants d'être ici afin de profiter de cette communion avec nous. Car nous attendons à ce que Dieu nous donne de grandes choses pendant cette rencontre. J'ai l'impression que depuis que j'ai eu cette pensée de rentrer pour ces quelques jours de réunion, mon cœur est étrangement agité par un puissant sentiment que quelque chose va se passer. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'espère qu'il s'agit d'une grande révélation venant de Dieu et qui nous préparera à être de meilleurs citoyens de son royaume, tandis que nous marchons dans ce sombre monde de péché et d'incrédulité, sans être saisi et dominé par l'incrédulité. Ce soir, ce terrain, cet endroit même, représente une grande chose pour moi, Depuis que j'ai su qu'ils avaient construit cet auditoire scolaire ici, j'ai voulu tenir des services dans cet endroit. Et je suis très reconnaissant à la direction de l'école, ainsi qu'aux personnes qui nous ont gracieusement permis de venir ici nous réunir. C'est en cet endroit, exactement là où s'élève cet édifice ce soir, qu'une grande chose est arrivée il y a à peu près une trentaine d'années. En ce temps-là, ce n'était qu'un champ de genêts. Et j'habitais dans une petite maison juste au-delà d'ici, à environ 200 mètres. À l'époque, je me préoccupais beaucoup du salut de mon père et de ma mère, qui tous deux sont partis maintenant. En ce temps-là, j'étais particulièrement préoccupé, réellement, pour mon père. Je me souviens que je dormais dans la véranda, c'était l'été et il faisait chaud. Ceci est inscrit dans le livre, dans le petit livre intitulé Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement, ou bien, à moins que ce soit dans le petit livre qui s'appelle Je ne fus pas désobéissant à la vision céleste. Et je dormais dans la véranda lorsque soudain je me réveillais et un fardeau vint sur mon cœur pour mon père. Beaucoup d'entre vous de cette ville ici connaissiez mon père. Je pense que c'était un grand homme, bien qu'il était pécheur. Il avait une mauvaise habitude contre laquelle j'ai essayé de lutter de toutes mes forces pendant cette période. C'était la boisson. Or, cette nuit-là, il buvait. Et je me réveillais avec ce grand fardeau sur mon cœur à son sujet. Je me trouvais en pyjama. J'enfilais simplement mon pantalon, sans ma veste de pyjama, je traversa ce champ de genêts pour venir à l'endroit où maintenant se trouve cet édifice, ce bâtiment. Je m'agenouillais pour prier pour mon père. Et pendant que je priais et demandais à Dieu de le sauver et de ne pas le laisser mourir pécheur, et parce que je l'aimais, tandis que j'étais en prière, je me levais pour regarder vers l'est. Et j'eus une vision. Le Seigneur Jésus se tenait juste au-dessus de moi. Beaucoup parmi vous connaissent la vision. Or, je ne suis pas, vous savez, sujet à des illusions, que je sache. Les visions sont une réalité. Et le Seigneur Jésus se tenait là. C'était la première fois que je le voyais dans une vision de cette manière-là. Il se tenait juste à environ 10 pieds au-dessus de ma tête. Il était là entre ciel et terre et il était en train de faire un pas. Il portait un vêtement blanc avec des franges sur le côté. Ses cheveux lui arrivaient aux épaules et il avait l'air de l'homme que décrit la Bible. Un homme d'environ 30 ans, de corpulence petite et mince. Il était très petit. Très petit. On avait l'impression qu'il ne pesait pas plus de 65 kilos. Et comme je regardais, je me disais qu'il devait y avoir quelque chose de faux avec moi. Je me frottais donc les yeux et regardais de nouveau et il se tenait de côté. On pouvait voir son profil et l'aspect de son visage, qui est celui que j'ai trouvé, que j'ai toujours vu dans les visions, est pareil à la tête du Christ à 30 ans de Hoffman. C'est la raison pour laquelle j'ai cela à la maison, dans mes livres. Et c'était la première fois qu'il m'apparaissait dans une vision de ce type. Dans mes livres, partout où je peux le mettre, car c'est le tableau qui le représente le mieux. Seulement, il semblait petit. Et je levais les yeux vers lui et pensais, non, je ne suis certainement pas en train de regarder mon Seigneur. Se tenait là. Et je me trouvais par là, dans cette position, peut-être même exactement à l'endroit où se trouve maintenant cette estrade. C'était quelque part dans cet environ, dans un rayon d'à peu près 40 ou 50 mètres d'après ce que je pourrais mesurer de l'endroit où je me trouve. Et je levais les yeux et il se tenait là. Je me mordis le doigt pour voir si j'étais réveillé. Vous savez comme cela fait. Vous avez l'impression qu'il ne peut pas en être ainsi. J'étais encore jeune dans le Seigneur. Cela faisait environ 6 mois que je prêchais. Je me mordis les doigts, je pris un jeûne et le brisai. Et beaucoup d'entre vous qui vivez à la campagne, connaissez cette espèce de cure-dent qui se trouve dans le jeûne. Je me mis à mâcher cela et je dis, ce n'est pas possible, je suis en train de rêver. Voici ma maison, mon père, ma mère et les enfants sont là. Il y a près de la vieille maison en briques à environ 200 mètres d'ici la mare où j'allais chasser les canards. Et voici que je me tenais dans ce champ, c'était donc bien cela. Je tapais de nouveau du pied par terre, secouais la terre, fit craquer mes doigts et regardais de nouveau. Et il se tenait là, toujours. Le vent alors se mit à souffler et je vis que ses genêts ondulaient. Lorsque le vent se mit à souffler, ses vêtements commencèrent à flotter. Ils commencèrent à claquer comme du linge étendu sur une corde. Il se tenait là, je regardais cela et je pensais, si seulement je pouvais jeter un coup d'œil sur son visage. Il regardait vers l'est, juste comme cela, très concentré. Il regardait très attentivement. Je me déplaçais donc afin de le contourner pour avoir une vision plus proche de son visage. Mais je ne pouvais toujours pas très bien le voir. Il tenait ses mains devant lui et depuis l'endroit où je me tenais, il m'était plutôt caché. Je me déplaçais de nouveau et je me suis approché et j'ai fait comme ça. Je voulais voir si je pouvais attirer son attention. Et j'ai fait comme pour m'éclaircir la gorge. Mais il ne bougea pas. Je pensais alors, peut-être devrais-je l'appeler. Lorsque je dis Jésus, il tourna la tête et lorsqu'il m'eut regardé, il étendit simplement les bras. C'est tout ce dont je me souviens. Je suis resté presque jusqu'au lever du jour, allongé là, quelque part vers ce qui est maintenant un champ. Ma veste de pyjama était toute mouillée de larmes que j'avais versées et j'avais perdu connaissance. Son visage avait des traits caractéristiques qu'aucun artiste ne pourrait dessiner ni peindre. Personne ne pourrait faire cela. Il ressemblait à un homme qui, si vous le regardez, vous ferez pleurer de compassion, d'estime et de respect, mais qui aurait assez de puissance pour que la parole puisse faire se renverser le monde. Ces traits caractéristiques ne pourraient jamais être saisis par un artiste. Jusqu'à ce jour, je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais ce soir, 30 ans plus tard, je me tiens ici dans une salle dédiée au service de Dieu Tout-Puissant. À l'époque, je n'étais qu'un frère laïque, un ancien de l'église baptiste dont Ron Davis était alors pasteur. Et maintenant, je me tiens ici, dans cet endroit bondé et sur ce même terrain, avec sur mes mains, je pense, l'acquisition par le sang de Jésus-Christ lui-même du salut apporté pendant ces 4 jours de message du Seigneur. Je pense l'acquisition par le sang de Jésus-Christ. Je me rappelle alors que, environ 6 mois plus tard, j'eus mon premier service de baptême là en bas à la rivière lorsque la lumière descendit juste là à Spring Street. Il se peut que beaucoup parmi vous veuillent descendre jeter un coup d'œil à Spring Street à l'eau, juste devant la rivière. C'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois au public. C'était à 2h de l'après-midi. Et une voix vint d'en haut et dit, « De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, ton message sera le précurseur de sa seconde venue. » Oui, nous sommes maintenant 30 ans plus tard et je suis toujours ici ce soir en train de proclamer ce message et autour de tout le monde. Il va dans le monde entier et fini. Il va dans le monde entier et ce soir-là, je suis content d'avoir de retour, d'être de retour chez moi, dans ma ville, afin de prêcher ce Seigneur Jésus-Christ que j'aime toujours de tout mon cœur. Chaque jour, il m'est doux qu'il ne l'était le jour d'avant. Je n'ai jamais changé un iota de mon enseignement. Je continue de croire à la même chose en laquelle j'ai cru quand j'ai commencé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai maintenant un message dont je suis responsable. Lorsque le message a commencé, tout le monde priait pour les malades. Il y avait de grands signes, des merveilles et des miracles qui avaient commencé, particulièrement dans le peuple pentecôtiste. Un réveil universel de campagne de guérison balaya le monde. Réellement, pendant 15 bonnes années, il y a sans doute eu des réveils sur chaque colline. Des feux de réveil brûlaient. Des millions de gens littéralement ont accepté Christ comme leur sauveur, au moins de cette seule commission. C'est de là que furent inspirés Oral Roberts et les autres. Puis cela continua ainsi après qu'en ce temps-là, l'église pentecôtiste se fut effondrée dans le monde, dans la mort. Ce soir, mais a été appelé à sortir de ce sable mouvant. Ce soir, mes intentions et mes désirs sont de réveiller cette église et de la rendre attentive à l'approche venue du Seigneur Jésus. J'ai une responsabilité. Je dois prêcher contre le péché, contre cette église, et la blâmer, et la corriger, et la corriger. J'ai un message. Je dois parler contre le péché, le blâmer, quel qu'il soit. Je n'ai rien contre quelque dénomination que ce soit, mais j'ai un message. Maintenant, comme il en fut avec le Seigneur Jésus, il est difficile d'être soutenu par cette église, car il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'il prêcha, lui aussi, au début, qu'il guérit les malades et ressuscitait les morts, purifia les lépreux, chassa les démons, tout le monde le voulait. Mais il vit un temps où toujours un message suivra chaque signe. Mais il vient un temps où toujours un message suivra chaque signe, car un signe a une voix. Donc, lorsqu'un jour, il s'assit et dit, « Moi et mon Père, nous sommes un », c'était plus qu'il n'en pouvait pas porter et supporter. Il en fut de même lorsqu'il dit, « À moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et que vous ne buviez son sang, vous n'avez pas sinon la vie en vous. » Eh bien, les docteurs et tous les gens bien pensants, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Tous les instruits. Ils auraient dit, cet homme est un vampire, il essaie de vous faire manger sa chair et boire son sang. Il n'a jamais exprimé cela. Il s'est contenté de le dire. Il se peut que pendant la réunion, vous entendriez des choses que nous ne sommes pas en mesure d'expliquer. Mais souvenez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le croyons. Maintenant, nous n'avons pas le temps de beaucoup parler, car ici, nous avons une certaine heure pour commencer et une certaine heure pour partir. Et nous voulons respecter le personnel de l'école qui a établi cet horaire à notre intention. Nous voulons faire tout notre possible pour les respecter. Souvenez-vous que chaque fois qu'un pécheur veut venir à Christ, tout ce qu'il a à faire est de s'avancer, que ce soit en train de prêcher, de chanter, que je sois en train de prêcher, que je sois en train de chanter, ou quoi que ce soit, donnez-vous à Christ. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous aider à venir à lui. J'aimerais parler à frère Wells, frère Borders, Val et les frères ici. Je me demande s'ils pourraient venir à l'église dans l'après-midi ou un matin. Ce serait pour donner des directives au sujet de ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit. Cela vous conviendrait-il, frère Neville? Et pourriez-vous tous être ici, là, frère Caps? S'il y en a qui veulent instruire au sujet du baptême du Saint-Esprit, pourquoi ne pas venir au tabernacle, frère Branham, sur... Oui, un matin vers les 10 heures, peut-être? Un matin vers les 10 heures, ok. Si vous avez une question sur l'enseignement, si vous avez une question sur le massage, si vous avez déjà été enseigné personnellement, si vous n'avez Si vous n'avez jamais été enseigné personnellement, si vous voulez qu'on prie pour vous, s'il y a quoi que ce soit que vous vouliez savoir, pourquoi ne feriez-vous pas un saut là-bas à 10 heures du matin pour voir ces hommes ou un ou plusieurs d'entre eux seront là pour enseigner, prier pour les malades, répondre aux questions personnelles. Allez simplement vers eux et ils seront heureux de vous aider de quelque manière qui leur soit possible. Oui, maintenant, avant de nous approcher de la parole, nous voulons nous approcher de nouveau de l'auteur de la parole. Il se peut que vous mangiez trop, il se peut que vous buviez trop, que vous ririez trop, que vous marchiez trop, mais vous ne prierez jamais trop. Je veux donc que des hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. 1 Timothée 2, verset 8. Prions. Jésus bien-aimé, toi l'auteur de la parole de la vie, toi qui es la parole de vie, nous nous approchons maintenant solennellement dans la crainte devant toi après avoir expliqué cette vision que, ô Dieu, tu m'as authentifié. Seigneur Jésus, tu confirmes que c'est la vérité, je te prie, ce soir, d'oindre cette parole pour l'entendement de toute oreille qui entend le son divin. Et s'il en est qui écoutent ici ou dans le pays et qui ne sont pas encore prêts, qui ne se sont pas préparés à rencontrer le défi de cette heure, le message venant de Dieu, qui ne se sont pas repentis et qui ne sont pas prêts, car le royaume de Dieu est proche. Nous te prions afin qu'il le fasse ce soir. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il puisse faire face au défi de cette heure. Ô Dieu, nous te prions de nous aider, car nous connaissons la responsabilité que nous portons et ce qu'elle signifie. Et au jour du jugement, je dois répondre de tout ce que j'ai dit ici et ailleurs et de ce que j'ai entendu ici et ailleurs. Aide-moi à être véritablement sincère à mort, Seigneur, avec tout ce que je fais ou dis de ta parole afin que cela puisse porter du fruit. Car la commission que tu m'as donnée est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifié et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 8. Seigneur Jésus, fais que il en soit ainsi. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Vendredi et samedi de 10 à midi à 12 heures, donc il y aura au tabernacle au 8 Penn Street des enseignements, des instructions, des réponses à des questions, des doctrines d'enseignement et d'autres choses qui seront nécessaires. Venez simplement, si vous avez des questions ou quoi que ce soit dont vous ayez besoin, il y aura quelqu'un pour diriger cela. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour le service d'ouverture de ce soir, je ne peux rien faire d'autre que d'aller directement à notre message. Maintenant, c'est pour cela que nous sommes ici revenus et c'est pour cela que je suis revenu. Et dimanche matin, si le Seigneur le permet, j'aimerais faire face au grand défi de ce jour qui est mariage et divorce et parler de ce sujet. Maintenant, j'aimerais lire ces paroles, ces quelques mots dans Galates chapitre 4, versets 27 à 31, car il est écrit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate en épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Or, de même qu'autrefois, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave de son fils et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, je crois que le texte que j'ai pris là est très étrange et inhabituel. Mais parfois, nous trouvons Dieu à des heures étranges et inhabituelles, de manière inhabituelle et dans des choses inhabituelles, des chemins et des choses inhabituelles, car Dieu est inhabituel. Et ceux qui le servent réellement de tout leur cœur le servent d'une manière inhabituelle par rapport aux choses ou aux manières de ce monde, tel que le monde le considère. Ce texte, pour le monde donc, ce texte s'intitule « La paille n'héritera pas avec le blé ». Ça, c'est mon sujet. Nous voyons que Paul ici parle ici littéralement de la semence des deux fils d'Abraham. C'est avec joie que Paul se place lui-même dans la position de celui qui est né de la femme libre. Or, nous savons qu'Abraham a eu deux fils de deux femmes différentes. Dieu lui avait donné la promesse qu'au travers de Sarah, un fils lui naîtra et que le monde serait béni au travers de ce fils. Et toutes les nations seraient bénies par ce fils. Et l'on croit communément, surtout parmi les Juifs, qu'il s'agissait d'Isaac. Mais ce n'était pas cela. Ce fils promis d'Abraham est Jésus, était Jésus, et il est de la semence royale promise à Abraham. Mais Abraham eut deux fils, dont un qu'il eut d'Agar, qui était la servante de sa femme. C'était une mignonne et gentille servante égyptienne qu'Abraham lui avait ramenée d'Égypte. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable, d'accomplir toute sa promesse, dit à Abraham de prendre Agar, sa servante, de l'épouser, car la polygamie était autrefois à cette époque-là légale. Je dis bien à cette époque, et de lui amener l'enfant, car c'était sûrement là ce que Dieu avait prévu. Elle ne devait avoir l'enfant qu'au travers d'Agar. Elle pensait que c'était prévu comme ça par Dieu, planifié par Dieu. Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. Non. Maintenant, nous comprenons aussi que Dieu est parfait en trois manifestations. Dieu est parfait en trois manifestations. Le chiffre de la grâce est 5. Le chiffre 7 est celui de l'achèvement, de l'accomplissement. Comme le monde achevé en 7 jours nous le montre. Dieu est parfait dans la manifestation en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la perfection de la divinité. Un seul Dieu lors des trois manifestations, de ces trois attributs, ou bien trois manifestations, donc manifestation manifestée, un seul Dieu manifesté en trois manifestations. Et encore trois fonctions d'une seule divinité. Et maintenant, dans l'Église, il y a aussi trois étapes. Vers la perfection dans la grâce. Ça est exactement typifié par la naissance naturelle. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, la première chose qui sort est l'eau, puis le sang et finalement la vie. Je crois que dans 1 Jean 5, verset 7, la Bible dit: car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont un. Mais il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, c'est l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Maintenant, le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans être rempli du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit. Oui, nous montrerons cela en nous inspirant de la nature. Il se peut que je vous paraisse étrange. Je n'ai pas d'instruction. Je suis sûr que vous l'avez compris. Mais j'enseigne par des types, car le naturel typifie le spirituel. Nous voyons que la perfection marche par trois. Dieu est parfait en trois manifestations. La perfection de la semence d'Abraham était Ismaël, Isaac et Jésus. Et Jésus, oui, Ismaël venait de la femme esclave, Isaac venait de la femme libre, et tous deux sont venus par le sexe, mais Christ vint par la vierge et non par le sexe. Il y a là une semence, une seule semence, et non des semences. Les autres étaient la semence d'Abraham, seulement selon la chair. Mais pour Abraham, il s'agissait de la semence de la foi et pas de la semence naturelle. Donc, en fait, on peut dire qu'ils n'étaient pas la semence d'Abraham, car la semence d'Abraham était la semence de la foi dont Dieu avait parlé. Ce n'était pas la semence naturelle. Car après la mort de Sarah, Abraham épousa une autre femme et eut 7 fils, sans compter les filles. Ce n'était donc pas les semences d'Abraham, mais la semence d'Abraham, la seule. C'était la semence de la foi d'Abraham qui vient par sa foi, indiquant la semence royale. Cette semence qui devait venir par la foi d'Abraham. Il ne s'agissait pas de la vie naturelle d'Abraham, mais de sa vie spirituelle. Abraham considérait toutes choses contraires à la parole de Dieu comme nulles. Il appelait les choses qui n'étaient point comme si elles étaient déjà. Croyant Dieu contre toute espérance, c'est de la semence réelle que nous parlons. Ici, nous avons cependant ici... En présence d'une image, nous sommes cependant ici en présence d'une image. La semence de la promesse démarra au milieu du léger doute à l'égard de la promesse originale. La semence de la promesse démarra ainsi. Voyez comme le doute s'installa lentement dans la promesse originale. Dieu avait promis à Abraham que par Sarah, il aurait un enfant. Mais remarquez que la première semence d'Abraham vint par la femme esclave parce que Sarah avait douté que cette chose puisse arriver, car elle était âgée et avait passé l'âge d'enfanter. C'est ainsi que commença l'Église. C'est ainsi que cela commença toujours. Vous commencez depuis le bas, vous ne commencez pas depuis le haut. Si un homme grimpe à une échelle et qu'il veuille aller tout de suite en haut, il se cassera le coup. Vous devez commencer par le bas et grimper pour arriver jusqu'en haut. Et c'est ici que nous trouvons le début de la promesse de Dieu rendue manifeste au travers d'un léger doute qui interrompit le programme de Dieu. C'est de la même manière que commença le péché dans le jardin d'Éden. C'est ainsi que la mort entra par le péché. Lorsqu'une seule parole de Dieu fut déformée ou mise en doute, et déplacé. Vous ne pouvez douter d'une seule parole de Dieu, ni la placer à faux, car c'est ainsi, dit le Seigneur, c'est ainsi avec la parole. Vous ne pouvez pas déplacer une seule pensée de la parole de Dieu de son contexte. Et Sarah, qui était une femme, ce qui représente l'Église, mit en doute le programme original de la parole promise de Dieu et dit, Abraham, toi, mon mari, prends cette belle servante. Vis avec elle et sois son mari. Moi j'ai la foi, mais ici, vis avec elle et sois son mari. Et au travers d'elle, Dieu donnera la semence de la promesse. Puis je prendrai l'enfant. Vous voyez, simplement le fait de supprimer un petit iota changea tout le programme. C'est pour cela que nous devons prendre toute parole de Dieu comme étant le ainsi dit le Seigneur. Toute parole de Dieu est vraie. La semence commença donc avec une promesse dont on avait légèrement douté. Isaac, qui était la semence de la femme promise et libre, manifesta la semence naturelle qui avait été promise. C'est ce que Paul essaye ici d'expliquer dans Galates. Et il continue en disant que les enfants de la femme esclave ne peuvent pas hériter avec les enfants de la femme libre. Car ils viennent de deux catégories différentes. C'est vrai, l'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant. C'est impossible. C'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Vous ne pouvez amener un poulet dénominationnel à croire comme un aigle. Vous ne pouvez pas simplement le faire. C'est pas possible. Non, ils peuvent pas. Les poulets ne peuvent pas avoir part avec les aigles. C'est là que commencent les ennuis. Vous devez croire la parole de Dieu. Vous devez croire chaque parole de Dieu. Vous n'êtes pas simplement vous n'êtes pas simplement cohéritier. Vous ne pouvez pas non plus vous joindre à cela. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez être un aigle ou un poulet. Isaac ne pouvait pas hériter avec Ismaël. Ismaël ne pouvait pas hériter avec Isaac, qui était la semence de la femme esclave et qui était née à cause du doute. Sarah mit en doute la parole de Dieu. Elle doutait que Dieu puisse tenir cette parole. Remarquez qu'Abraham, voyez ce que je prépare pour dimanche prochain. Ne douta pas. Sarah douta. C'est elle qui douta, pas Abraham. Ce n'est pas Adam qui douta. Ce fut Ève qui douta. Nous en verrons encore davantage à ce sujet dimanche matin. Vous voyez. Très important. Nous allons venir à parler de ces choses dimanche matin. Oui, le naturel ne peut pas davantage hériter avec le spirituel. Pas plus que les enfants d'Ismaël. C'est ainsi. Ne peuvent pas hériter avec les enfants d'Isaac. Le charnel ne peut pas hériter avec le spirituel. L'église naturelle, il y a l'église naturelle et l'église spirituelle. Vous voyez, il y a une église naturelle typifiée par ces femmes ici. Il y a aussi une église spirituelle. L'église naturelle et l'église spirituelle ne peuvent donc pas hériter ensemble. Ce sont deux peuples différents, vivant à deux époques différentes et sous deux alliances différentes, séparés l'un de l'autre. C'est pour cela que l'enlèvement sera différent et ne sera que pour la semence royale d'Abraham. Cet enlèvement ne peut pas se faire par le naturel, par la semence naturelle, par l'église naturelle, par la semence charnelle de l'église. Ce devra être la semence royale de la parole de Dieu venant au travers d'Abraham. La semence royale. C'est pour cela que l'enlèvement aura lieu en premier. Car souvenez-vous que nous les vivants qui devenons au lieu, c'est pour cet raison que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, vivant en Christ, nous ne devancerons pas aucunement ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu retentira. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, et nous qui sommes en vie, demeurant et vivant en Christ, serons enlevés ensemble avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Remarquez qu'il est aussi écrit, le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ils ne seront donc pas hérités ensemble. Ils n'iront pas ensemble dans l'enlèvement. Il n'y a absolument aucune église naturelle. Il n'y a absolument qu'une église naturelle et une église spirituelle. Une église charnelle et une église spirituelle. Il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle. La semence prédestinée d'Abraham, car elle est prédestinée à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice pour lequel Dieu a pourvu. Ce sacrifice qui est Christ, la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est dans Romains 8 au verset 1. Si vous voulez Vois l'écriture. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Qui sont dans le Christ Jésus, ils sont devenus une nouvelle création. Car ils ont marché non selon la chair, mais selon l'esprit. Et dans Jean 5, au verset 25, il dit ceci. Celui qui entend ma parole, le véritable terme est comprendre. Est comprendre. Celui qui comprend, n'importe quel ivrogne peut entendre cela et continuer son chemin. Mais celui qui écoute ma parole, qui comprend ma parole et croit que celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne viendra pas en jugement. Mais il a passé de la mort à la vie. Certainement, celui qui a ce grand mystère de Dieu, celui à qui ce grand mystère de Dieu a été révélé, comprend comment ce que Dieu a été en Christ s'est réconcilié lui-même avec le monde, comment lui et le Père sont un. Il comprend l'accomplissement des grands mystères de ce Dieu qui se prend et se livre lui-même, se manifestant dans l'âge des êtres humains et dans le cours de leur vie. Il rend manifeste sa parole en compagnie des êtres humains au jour où le soleil se lève à l'est, comme il le fait lorsqu'il se couche à l'ouest, afin de se manifester lui-même ainsi que sa parole au travers d'une église épouse. Celui qui comprend, c'est-à-dire qui connaît ce qui lui est révélé de celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui reconnaît celui qui m'a envoyé. Mais il est passé de la mort à la vie. La semence naturelle n'était qu'un porteur de la semence spirituelle. Comme la tige, le gland et la balle. Nous avons vu cela auparavant dans un autre message, n'est-ce pas? Mais j'aimerais revoir cela, revenir là-dessus juste une minute. Il y a donc trois étapes pour la semence. Ce qui est pour nous une véritable image de la semence naturelle sur la terre. Lorsqu'une semence est plantée, elle produit une tige sur laquelle bourgeonnent des feuilles. Puis vient l'épi où le pollen est suspendu. Ensuite vient la balle, puis de nouveau la semence. Observez les étapes de cette parfaite parabole et voyez comme un type. Cela marche exactement, car Dieu est l'auteur de toute la nature. La nature ne peut donc faillir. Non, car Dieu est l'auteur de la nature. Pas plus que Dieu ne peut faillir, car il était celui qui a placé chaque chose dans sa condition, afin que nous puissions regarder et observer. Observez, Agar était la tige. C'était le début de la semence qui se levait. Mais cela ne ressemblait absolument pas à la semence. C'était la tige, car elle était une esclave. Elle ne faisait pas du tout partie de la promesse. Elle n'avait rien à voir avec la parole. Elle n'avait rien à voir à faire avec l'accomplissement de la parole. Elle ne faisait que transporter la semence. Fait que transporter la semence. Elle faisait que conduire la sève. Vous voyez? Ensuite vint Sarah, qui était l'épi, et elle avait le pollen. Cette nation juive qui sortit d'elle amena Isaac. À travers Isaac, elle amena Jacob. À travers Jacob, elle amena les patriarches. Et à travers les patriarches, elle amena une nation. Par la foi, la Vierge Marie produisit la véritable semence spirituelle, la parole faite chair. Vous voyez, il y eut dans lequel la parole est devenue chair. Il y eut trois femmes, vous voyez, qui portèrent cette semence. L'une d'elles était en fait adultère, avec la polygamie, plusieurs femmes en même temps. La deuxième était une femme libre. Et la troisième n'eut rien à faire avec le sexe, mais par la foi, elle crut la parole de Dieu, et la parole de Dieu s'est accomplie. Sarah et Agar eurent affaire avec le sexe. Mais Marie était vierge et reçut la semence par la puissance de la parole promise de Dieu. C'est juste. Agar, vous voyez, était la tige. Deux femmes doutèrent à la promesse. Mais observez ce que cela amena. Agar, la deuxième femme d'Abraham, n'était tout simplement qu'une concubine. Concubine. Elle mit au monde un homme. Mais quelle sorte d'homme était-ce? La Bible dit que c'était un homme sauvage. Il vivait de son arc et aucun homme ne pouvait l'assujettir. On ne pouvait l'apprivoiser, le convertir, ni le régénérer. Il ne pouvait être apprivoisé. C'était un homme sauvage. Car il était contraire à la parole de Dieu. Et toute chose contraire, tout prédicateur, tout frère, laïque, toute l'église, contraire à la parole de Dieu, produira un tas d'adultères sauvages, dignes d'une Hollywood mondaine, et ne pourra jamais rester avec la pure parole, car elle ne fait même pas partie de la promesse. Non, ils ne peuvent qu'interpréter. Mais Sarah était l'épouse, la vraie femme de la promesse. Mais comme Sarah était l'épouse, la vraie femme de la promesse, elle mit au monde un homme vaillant. Après son retour d'âge, elle produisit une nation qui servit. Après son retour d'âge, après qu'elle fut rajeunie, elle produit une nation qui servit Dieu. Mais Marie n'eut pas du tout affaire au sexe. Alors qu'elle était vierge, qu'elle n'avait point connu d'homme, elle crut la parole promise. Et l'ange du Seigneur vint à sa rencontre et lui dit, « Je te salue, Marie. Béni sois-tu parmi les femmes, car Dieu est avec toi. » Et elle dit, « Comment ces choses arriveront-elles ? » L'ange dit, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Dans aucun âge, on n'avait vu une chose pareille. Mais Marie crut Dieu. Et elle dit, « Voici, je suis la servante du Seigneur. » Elle crut la parole comme allait-elle avoir ce bébé. Elle a dit qu'il me soit fait comme tu as dit. Elle savait qu'Agar avait eu le bébé après un rapport sexuel avec Abraham et que Sarah avait eu le bébé. L'enfant de la promesse après un rapport sexuel avec Abraham. L'esclave et la femme libre avaient eu des rapports sexuels. Mais ici, on lui demandait de croire de cette même foi qui était en Abraham et le portait à croire des choses impossibles. C'est-à-dire, Marie était amenée à croire comme Abraham avait cru, de croire l'impossible. Du moment que Dieu a dit qu'il en serait ainsi, c'est ce qui est juste. Elle crut Dieu sans jamais poser de questions. Elle dit, voici la servante du Seigneur, peu importe des critiques que je devrais supporter du monde, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est alors que fut engendrée la véritable semence. Agar ne pouvait pas le faire parce que c'était le sexe. C'est vrai. Sarah ne pouvait pas le faire non plus. C'était le sexe. L'église sectaire dans des interprétations et des doctrines ne peut pas le faire non plus. Il faut seulement là où la foi, où la parole originale de Dieu est crue. C'est ainsi que cela fera produire un enfant de la promesse. Vous voyez? Il faut que ce soit une foi vierge en la parole de Dieu. Une foi vierge sans pensée humaine pour faire produire un enfant à la promesse. Le sectarisme ne produira jamais une église née de nouveau. Il ne peut pas faire cela. Il produira quelque chose qui sera un quelconque substitut, qui essaye d'être quelque chose. Il produira quelque chose qui imitera cela, qui essaiera d'y ressembler. Mais une véritable église de Dieu née de nouveau croit la parole de Dieu face à toute chose, quelle qu'elle soit. Car elle n'est pas adultère. Elle n'acceptera jamais des interprétations. C'est par la promesse de Dieu que ces choses arrivent. Appelée à l'existence par la parole de Dieu. Marie, la véritable porteuse, celle qui ne l'est pas par le sexe, dit qu'il me soit fait selon ta parole. Voici ta servante. Et que produisit-elle? Non un homme sauvage, non plus une nation, mais elle produit la parole, Dieu lui-même, rendu manifeste dans la chair. Amen. La véritable semence de Dieu manifesta chaque promesse que Dieu avait faite dans la Bible. Aucun homme ne peut vivre sans lui. Vous voyez? Il était la véritable semence. Marie était seulement l'enveloppe qui produisit le grain. Les deux autres étaient des porteuses qui n'amenaient à la vie que des semences naturelles. Maintenant, ne faites pas de Marie, s'il vous plaît, une déesse, comme certaines essaient de le faire. Elle n'était pas une déesse, certainement pas. Elle n'était qu'une porteuse de la semence comme les autres. Elle était aussi porteuse de la semence. Mais la foi dans la parole produit quelque chose de plus proche de l'image réelle. Comme lorsque le grain de maïs ou de blé mûri, cela produit d'abord une tige, puis vient le pollen, et ensuite vient l'enveloppe. Et si vous n'observez pas attentivement cette enveloppe, vous aurez l'impression qu'elle ressemble exactement au grain véritable. Mais en l'ouvrant, vous trouverez le véritable grain à l'intérieur. De nouveau, il ne s'agit que d'une porteuse. Ainsi, vous voyez comme Marie, non pas le sexe, mais par la foi, produisit quelque chose d'exactement pareil. Marie n'était pas cette semence. Marie était une porteuse de la semence. Lui était la semence véritable de la foi, parce que la parole de Dieu a été donnée à Abraham par la foi. Et seule la foi peut produire ce que Dieu a dit qu'il voulait faire, la foi en sa parole. Remarquez comme Marie se rapprochait davantage de la parole véritable. Elle était comme l'enveloppe. La balle enferme la semence en elle-même, la protège et la nourrit jusqu'à ce qu'arrive la maturité. Elle demeure seule. C'est ainsi que ce troisième âge de l'église de Pentecôte a mûri, tenant ce grain jusqu'à ce qu'il soit temps d'ouvrir la balle. Marie, qui était la mère de Christ, n'était qu'une incubatrice, elle n'était qu'une porteuse du grain. Jésus n'était pas du sang de Marie, il n'était pas du sang des Juifs, il n'était pas du sang des nations, il était du sang de Dieu, il avait le sang de Dieu. Dieu créa ce sang, son sang. Ce ne pouvait être par le sexe. Jésus, Dieu, n'était ni juif ni gentil. Le bébé n'a pas une goutte de sang de la mère. Le sang vient du père. Nous savons que l'hémoglobine vient du mâle. C'est comme pour des poussins. Une poule peut pondre un œuf, mais si elle n'a pas été avec le mâle, avec le coq, il n'éclora jamais. Il est stérile, bien qu'ayant tout à fait l'apparence de l'œuf fertile. Il en a toute l'apparence, mais il n'y a pas la vie en lui, parce qu'elle n'a pas été avec le mâle. C'est ainsi qu'en est des gens qui se prétendent de Christ. Beaucoup parmi eux ressemblent à des chrétiens et essayent d'agir comme des chrétiens et prétendent le servir. Mais vous devez avoir la vie de Christ en vous-même. Christ lui-même doit être en vous, car il est la parole rendue manifeste. Sinon, vous ne mûrirez jamais pour devenir un chrétien croyant la Bible. Vous serez toujours en quelque chose de dénominationnel. Ce quelque chose ne peut pas vivre, car il n'y a aucune vie en lui pour le faire vivre. Si la poule n'a pas été avec le mâle, l'œuf ne peut pas éclore. Il pourrira simplement dans le nid. Il en est de même dans les membres d'une église. Vous pouvez les doloter, en faire des diacres et toutes des choses, en faire des anciens, mais vous aurez un nid rempli d'œufs pourris, à moins qu'ils ne soient unis au mâle. C'est juste. Et le mâle, c'est la parole. Le porteur, la balle, nourrit la semence. C'est juste. Puis la semence doit quitter la balle, ou la balle doit quitter la semence afin que celle-ci puisse être en présence du soleil pour mourir. Nous voyons tout cela en type. Voyez maintenant combien l'Église des derniers jours tend à ressembler le plus possible à la semence elle-même. Regardez comme cette dénomination de Pentecôte qui s'est élevée en ces derniers jours Nous expliquerons cela un peu plus tard. En est venu à ressembler de manière tellement proche à la semence. Lorsque l'enveloppe se détache d'un grain de blé après que le pollen soit tombé, alors de la seconde étape, nous entrons dans la troisième étape. Si vous n'observez pas vraiment très attentivement, vous ne serez pas capable de dire où se trouve le véritable grain de blé là-dedans. Lorsque cette première petite graine apparaît, elle ressemble vraiment au grain. On a l'impression que c'est déjà le grain. Mais si vous vous installez et que vous ouvrez cela, vous découvrez qu'il n'y a pas de grain du pain. Il n'y a pas de grain du tout, du tout. Il ne s'agit pas de la balle d'un porteur du grain. C'est-à-dire, donc, il ne s'agit pas de la paille d'un porteur du grain. Mais c'est de là que sort le grain. Vous voyez? Mais souvenez-vous qu'après la paille, il n'y a plus rien. Souvenez-vous qu'après Marie, aucune semence promise ne devait venir par une femme. Et il ne nous est point promis de dénomination après celle de Pentecôte. Ce sera l'épouse enlevée. Sortant de cela, la semence, la parole rendue de nouveau manifeste, c'est tout. Ce sera la parole elle-même qui sera enlevée. Or, vous savez combien c'est ressemblant. Dans Matthieu 24, verset 24, il est dit que dans les derniers jours, les deux esprits, l'esprit de l'église et des gens de l'église, et l'esprit de l'épouse et des gens de l'épouse, seront si proches que cela tromperait même les élus. Si cela était possible, c'est aussi proche que cela. Observez comme la vie passe à travers la tige. Maintenant, observez ici, nous allons voir quelque chose qui est un type. Luther, dans l'âge où il produisit la semence de l'épouse, par l'esprit, était le même en esprit. Il n'y eut qu'une petite graine de la semence de Luther qui s'éleva. Ce fut la justification par la foi. Il était un type même d'Agar, la tige. Remarquez que Wesley était un type de Sarah. C'était l'âge de Philadelphie, l'âge de l'amour qui produisit l'épi. Durant l'âge de Wesley, il y eut plus de missionnaires que durant n'importe quel autre âge. Ce fut le grand âge missionnaire du temps de Wesley. Mais l'âge de Pentecôte représente Marie, c'est-à-dire la dernière étape. Elle n'était pas la semence, bien que la vie de la semence se trouvait en elle. La vie de la semence a été placée en elle. La vie de la semence, jusqu'à que cette semence mûrisse. Oh, je me sens bien maintenant. Cette semence n'était pas encore mûre. Oh, je me sens vraiment rempli de piété. Elle n'était pas encore mûre. Elle était là, mais n'était pas encore mûrie. Ainsi en est-il de notre âge de Pentecôte dans lequel nous vivons. Une parole de Dieu doit être produite qui soit en dehors de toute dénomination, hors du domaine de toute dénomination. Luther se dirigea vers la balle, vers la paille, par sa première parole. Le juge vivra par la foi. Wesley eut deux paroles. Donc la balle et la paille, c'est la même chose. La première était une parole de sanctification. Et la seconde définit l'œuvre de la grâce. La Pentecôte apporta la troisième parole, c'est-à-dire la résurrection des dons. Mais toute la semence devait sortir. Voyez comment ils établirent une dénomination sur une parole, puis sur une autre, puis sur une autre. Mais il doit y avoir quelque chose dont on ne peut faire de dénomination. C'est la vie dans son intégralité qui doit se trouver là et qui doit se produire elle-même à nouveau dans une épouse. Il ne peut y avoir d'autre âge de l'Église après cela ici. Nous sommes à la fin. Frères et sœurs, nous sommes ici. Il faut que maintenant les pouces soient manifestés. Nous sommes arrivés. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Nous voyons des choses. Maintenant, nous voyons que que ces choses sont aussi vraies que possible. Nous remarquons alors que si Marie ou Wesley était l'épi, alors la Pentecôte doit être l'enveloppe, car c'est l'étape suivante de la sortie du grain.
Et après, donc, c'est-à-dire que la prochaine étape, c'est que la sève se manifeste et va dans la prochaine étape. Mes frères et sœurs, la tige n'est pas le grain, pas plus que l'épi n'est pas le grain, ni que l'enveloppe ou la paille n'est pas le grain. Bien que chaque fois que la plante mûrit, elle ressemble davantage au grain. La tige ne ressemble pas au grain. Qu'est-ce donc qui doit sortir? L'épi, c'est-à-dire une grappe de petits bulbes, lesquels ressemblent davantage au grain que l'épi, que la tige et les feuilles. Que vient-il ensuite? La paille, c'est-à-dire l'enveloppe qui contient le grain et le nourrit. Maintenant, retournons à la promesse que Dieu a faite à Abraham au sujet de cette semence. Ce qui était une manière spirituelle de parler, c'est-à-dire il parlait de sa semence spirituelle. Nous savons tous qu'il parlait de Christ, non d'Isaac. C'était sa semence de la foi qui devait venir au travers de la semence de la foi d'Abraham. Remarquez que la première semence vint par une esclave. Cela ne ressemblait pas du tout à une promesse. Ce n'était pas une promesse. Dieu n'avait pas besoin de faire ce que les hommes disent ou bien attendent. Dieu dit quelque chose de tel qu'il le dit, c'est ainsi que ça va arriver. Pas tel que les gens l'interprètent. Mais Sarah représente l'Église. Et elle pensait, « Oh bien, je crois que c'est un peu trop phénoménal. Et prends Agar comme femme. » Vous voyez cela? Ce n'était pas comme si la promesse était en train de s'accomplir ou bien s'accomplirait. Cette tige Agar ne ressemblait pas du tout à la promesse. Puis Sarah apparut. Puis la promesse a été manifestée. Cela semblait très bien. Cela ressemblait beaucoup plus à la promesse ici. Mais ce n'était pourtant pas encore la véritable promesse. Car au travers d'Isaac, Israël faillit et renia la véritable semence lorsqu'elle vint. Alléluia. Ne vous excitez pas, ne courez pas. Cela ne vous fera pas de mal. Ils renièrent la semence, le crucifièrent et le pendirent sur la croix. La semence naturelle a renié la vraie semence et l'a crucifiée. Juste comme Paul a dit, la semence de l'esclave n'a-t-elle pas persécuté la semence de la femme libre? C'est ainsi que la semence de la dénomination persécute le véritable grain. C'est ainsi qu'il doit toujours en être. Ils n'hériteront pas ensemble. Ils ne sont pas associés. Ce sont deux promesses absolument différentes. Deux époques différentes. En tout cas, deux peuples différents. L'une est l'épouse et l'autre est une église. On ne peut absolument pas les comparer. Mais elles ne sont toujours pas la semence promise qui devait venir. Sarah ne l'était pas. Agar non plus. Marie non plus n'était pas la semence. Marie n'était pas la semence. Elle était une porteuse de la semence. Tout comme la paille qui est l'enveloppe du grain. Elle avait nourri puis fait sortir la véritable semence de sa matrice. Mais la paille n'est pas la semence, n'est pas le blé, n'est pas la semence, le grain de blé. Elle est ce qui est le plus proche de la semence, du grain de blé. Elle enserre la semence, le grain de blé. Si nous regardons en bas dans la tige, nous voyons que la vie se répand à travers elle. Et lorsqu'on arrive au pollen, elle s'approche encore davantage, mais lorsqu'on arrive à la paille, à l'enveloppe du grain même, on voit que celle-ci se trouve juste avant la semence et que sa forme est presque la même que celle du grain. Jésus nous a dit ce qu'il en sera dans les derniers jours. Elle serait si proche qu'elle pourrait séduire même les élus, si cela était possible. Mais ensuite, la semence sort de là. Et alors la vie quitte la paille. La paille est donc un porteur. Et c'est exactement ce qu'on était, ce qu'ont été nos dénominations. Luther, Wesley, les pentecôtistes ont été des porteurs de la vie. Et il est maintenant temps pour la semence, pour le grain de blé de sortir de cela. Maintenant, remarquez simplement que Marie n'était pas la semence. Il y avait la paille, l'épi, la tige, c'est-à-dire des porteurs pour une partie de la parole, pour une partie de la parole et non pour toute la parole. Luther avait la justification, Wesley avait la justification, les Pentecôtes avaient la restauration des dons. Mais lorsque vint la parole, c'était cela qu'il pouvait produire. La justification sauvera l'homme. Croyez-vous cela? Certainement, c'est le porteur de la parole. Et je crois également que la tige fait partie du blé, certainement. Mais elle est un porteur. Elle n'est pas la vie. Elle n'est pas la vie. Puis vient la sanctification. Combien croient à la sanctification? Certainement. Vous devez croire la Bible. Ensuite vient la Pentecôte, la restauration des dons. Il disait que le parler en langue était la preuve initiale que vous avez le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils appelaient la preuve initiale. Que produisit-elle? La paille. Mais ils firent une organisation. Lorsque vous en venez à dire, moi et le Père sommes un, et ces autres choses, alors la paille s'éloigne de cela. Mais la véritable épouse église originelle produit l'entière parole de Dieu dans sa plénitude, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Matthieu 13, verset 38, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reconnaissez, comme Luc 8, verset 11, remarquez que la semence se trouvait dans le sein de Marie. Mais lorsque la semence fut libérée, elle dit, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais moi et mon Père, nous sommes un. Et si je ne fais pas ces œuvres, ne croyez pas. C'était la semence. Lequel d'entre vous peut-il m'accuser du péché, d'incrédulité? Ce que la Bible a promis que je ferais, je l'ai fait. Dieu a trouvé cela au travers de moi. A-t-il dit, la semence dans le sein de Marie, l'enveloppe était prêt d'être cela, mais elle n'était pas la semence. Elle se trouvait toujours dans le sein de Marie. Remarquez, il en a toujours été de même, que ce soit pendant l'âge pentecôtiste, l'âge luthérien ou l'âge Wesley. Mais lors de l'ouverture du septième sceau, dans l'Apocalypse 10, toute la parole doit renaître, être manifestée de nouveau et être authentifié par l'Esprit de Dieu dans toute sa puissance, comme elle le fut lorsqu'elle se trouvait sur la terre et qu'elle fut manifestée de la même manière et qu'elle faisait toutes ces choses. Amen. Hébreux 13, verset 8, dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Luc 17, verset 30, Jésus dit, il en sera dans les derniers jours comme au jour de Sodome, et que le Fils de l'homme se révélera de nouveau lui-même. Le monde se trouve dans une condition sodomique et l'Église est entrée avec lui dans Sodome, tout comme Lot et sa femme. Et je vous dis qu'il y a quelque part dans le monde une Église élue qui doit être tirée hors de ces choses, mise à part et mise à part de ces choses. Son attention a été attirée par la manifestation de Dieu. Nous sommes dans les derniers jours. L'enveloppe a transmis sa puissance, sa force à la graine. Toute sa force s'en est allée. Elle a été une bonne enveloppe, mais elle a fait son temps. Vous voyez, c'est l'épouse parole de l'époux parole, la semence naturelle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La semence naturelle d'Isaac et autres devait être enterré afin de produire cette autre semence, afin de produire Jésus. C'est ainsi qu'il devait en être de toutes ces autres semences. Les enveloppes devaient sécher, le pollen devait sécher et tout devait mourir afin que la graine puisse se produire elle-même. C'est ainsi qu'il en a été en chaque race. Les dominations ont transporté une partie de la graine. Une partie de cela forme la parole, car elle avait été cachée ou scellée aux sages réformateurs jusqu'à ce qu'apparaisse l'âge de l'aigle. C'est ce que dit la Bible certainement, car c'est ce qui nous a été promis dans Malachie 4. C'est exactement cela. Il a caché cela aux yeux des sages et des intelligents. Et comme nous venons de le voir dans le livre d'Apocalypse, ces trois bêtes qui sortirent typifiaient exactement Luther, alors que les autres, le bœuf et autres animaux de la Bible, donc ces trois êtres vivants, représentaient successivement les autres âges de l'Église. Cela produisit la justification, la sanctification et arriva même jusqu'au pentecôtisme. Mais le quatrième vivant était un aigle. C'est juste. Et pendant cet âge, Dieu fit sortir la graine. La semence devait donc traverser cet âge pour que tout soit juste. Oui, c'est la promesse de l'aigle de Malachie 4 qui est accompli. Jésus n'était pas de Marie, mais elle vint au travers de Marie. Mais il vint au travers de Marie. Tout comme la vie vient au travers de l'enveloppe, de la paille. Maintenant, beaucoup parmi vous qui êtes ici ce soir et qui étaient de gentils frères et sœurs catholiques, pensez peut-être que Marie était la mère de Dieu. Et vous dites qu'elle était. Comment pouvait-elle être mère de Dieu alors que Dieu n'a ni commencement ni fin? Vous voyez? Qui donc était le Père de Dieu, si elle était la mère? C'est lui qui était son créateur, et non elle qui était sa créatrice. Il se créa lui-même dans le sein de Marie, et n'était pas sa création à elle. Il se créa lui-même. Il ne venait pas d'elle, mais elle venait de lui. C'est juste. La Bible nous enseigne que c'est lui qui a fait toutes choses. Rien n'a été fait si ce n'est par lui. Par lui. Comment donc aurait-il pu avoir une mère alors qu'il était lui-même Dieu? Nous voyons ici la véritable révélation du vrai type. Voici trois femmes qui ont, en tant que porteuses de la semence naturelle, jusqu'à ce qu'elles mûrissent en Jésus. Nous voyons qu'elle ne pouvait pas venir d'Ismaël. Ça ne pouvait pas être Ismaël. Car il était, comme on dirait aujourd'hui, né hors des liens du mariage. Il était le fils d'une femme esclave. Ensuite vint Isaac qui se rapprochait davantage de lui, de Jésus. Mais ce n'était pas encore lui, car il était né par des relations sexuelles entre Sarah et Abraham. Mais ensuite vint Marie qui, par une naissance virginale produisit Jésus-Christ. C'est juste Dieu, la parole faite chair. Observez maintenant qu'il y avait trois femmes. En tant que type, ces trois femmes typifient ces églises, des églises. Les femmes typifient toujours des églises. Elles représentent trois âges dénominationnels, trois enveloppes qui devaient mourir et sécher en tant que porteuses, tout comme le fait l'enveloppe afin de faire place à la semence, au grain de blé. La semence ne peut pas mûrir tant que l'enveloppe, la tige et l'épi, donc les feuilles, ne sont pas complètement séchées et que réellement toute la vie se rassemble dans le grain. Sinon, elle affaiblisse toute la vie qui se trouve en elle. Amen. Oh, comme c'est merveilleux. C'est maintenant le temps de la semence. C'est le temps de l'épouse. Le temps du grain. Les enveloppes sont mortes. Les enveloppes sont séchées. C'est le temps de la parole vierge qui n'a pas été touchée par des interprétations. C'est une vierge. Souvenez-vous que c'est le temps de la parole vierge. Si vous la mettez entre les mains d'une dénomination ou bien d'une église, elle ne sera certainement plus vierge. Si vous laissez la parole entre les mains des hommes, elle ne sera plus vierge. Vous irez alors vers le temps de la manipulation humaine. Mais l'église de Dieu ne doit pas être touchée par une église. Alléluia. C'est une vierge née de la parole de Dieu manifestée. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Oh, comme c'est merveilleux. J'aime cela. Je crois ces choses. Je sais que c'est la vérité. Elle ne sera pas touchée par des interprétations, par des hommes, par une dénomination, par une église. Il n'y aura pas de manipulation humaine et de dénomination. Alors, de la naissance vierge de l'épouse, certainement pas. Dieu lui a ordonné de sortir de cela. Il a ordonné de sortir de la manipulation humaine. Ne touchez pas à ces choses impures. Vous deviendrez des vautours. Cela me fait penser à quelque chose. Tandis que je rentrais à la réunion de Phoenix l'autre soir et que l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur quelque chose, j'étais en train de discuter avec ma femme, de parler avec ma femme et les enfants étaient endormis à l'arrière de la voiture. Il a attiré mon attention sur un faucon. J'observais attentivement ce faucon et l'étudiais. Il est le type même de l'église d'aujourd'hui. Comme nous le savons tous, le faucon a perdu son identité propre qu'il avait lors de la création originale. C'est parfaitement vrai. Au début, le faucon était semblable à l'aigle, son grand frère. Mais maintenant, il ne peut plus voler dans le ciel afin d'y chasser sa manne céleste. Il est devenu mou. Il ne peut plus voler dans le ciel. Il sautèle sur le sol comme un vautour. S'installe sur une cabine téléphonique et se met à sautiller en chassant les lapins morts. Le faucon n'était pas fait pour cela. Non, il était fait pour être semblable à l'aigle. Il en est exactement de même pour l'église. Elle était semblable à l'aigle. Elle devrait prendre place dans les cieux. Mais au lieu de cela, elle s'est ramollie. Elle ne vole plus dans l'inconnu, dans le ciel bleu. Certainement pas. Elle s'appuie sur les moyens modernes. Oui, elle s'appuie sur les moyens modernes qu'elle a adoptés, sur l'éducation et la théologie de quelques dénominations faites par l'homme. Elle sautille sur le sol à la recherche d'un tas de lapins morts, tués par quelqu'un d'autre et à moitié pourri. C'est juste un faucon. Voyez ce que cela signifie. Mais l'aigle n'a absolument pas changé. Il reste toujours un aigle. Le faucon ne s'élève plus dans les cieux pour établir sa manne, pour attraper sa manne. Mais il dépend de ce qu'il peut trouver, de ce qui est déjà mort. Un vrai faucon ne dépend pas d'un poteau de clôture pour surveiller le sol. Mais observez de nos jours un vieux faucon. Promenez-vous le long de la route et vous verrez que les câbles téléphoniques sont remplis de faucons en train de regarder s'ils peuvent trouver quelque chose qui a été tué, quelque chose de pourri. C'est ce qu'il doit faire car ses ailes ne sont plus suffisantes pour lui permettre de voler. Il s'écraserait immédiatement sur le sol car il est devenu tout mou. Il n'a plus utilisé la force que Dieu lui avait donnée. Il avait été spécialement prévu pour naviguer dans les cieux et observer ce qui se passe depuis là-haut. Mais maintenant, il reste en bas et ne peut même plus regarder en haut. Il a l'esprit fixé sur des lapins morts ou sur ce qu'il peut trouver sur la route comme des choses semblables, des opos ou quelque chose de semblable, toutes sortes d'ordures qu'un automobiliste a écrasé. Ce n'est pas un aigle, mais il en a quelque chose. De la même manière, l'Église dépend de l'éducation et de ces choses pour sa nourriture. Une nourriture morte depuis des années, qui avait servi pour Luther, Wesley, les pentecôtistes, et qui continue à, etc. Mais l'Église regarde en arrière à quelques interprétations fabriquées par l'homme. Au lieu de voler dans les cieux de la parole où toutes choses sont possibles à celui qui croit. Le faucon a pris les habitudes du bas. Ces choses mortes étaient laissées pour les vautours, c'est-à-dire le monde. L'instruction et toutes ces choses étaient prévues pour le monde, non pas pour l'Église. Le faucon n'est plus robuste. Il ne peut plus s'élever dans ces cieux rudes où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il retourne en arrière pour dire, eh bien, le docteur un tel était là, a dit, ma dénomination ne le croit pas de cette manière. Ô faucon perverti qui a peur de se déclarer pour les promesses de Dieu et pour toute la parole de Dieu. Vous dites, eh bien, les jours des miracles sont passés. Vous vous êtes ramolli. Vous avez peur de prendre vos ailes et de vous envoler vers l'au-delà. Vous êtes ramolli au point de ne pouvoir assister à une réunion de prière. Oui, vous vous êtes ramolli. Vous êtes arrivé à un point d'avoir peur de rester plus de 10 minutes dans la prière. Vous picorez de ci, de là, tel un vautour en train de manger une charogne par terre. Certainement, le faucon est trop mou pour pouvoir aller de nouveau dans cet endroit rude là-bas, à l'autre, de l'autre côté. Il picore comme un vautour et mange la nourriture du vautour. C'est cela, c'est juste à tel point qu'il commence à ressembler même à un vautour. Il agit comme un vautour, il n'a plus rien du faucon. Il n'a plus rien du faucon. Il ressemble davantage à un vautour qu'au faucon. Le faucon est censé voler, non pas s'installer sur une cabine téléphonique pour attendre de voir un lapin mort, puis descendre et se mettre à sautiller ça et là comme un vautour. Vous voyez, c'est exactement ainsi que l'Église agit aujourd'hui. À quoi bon aller se mettre à voler là en haut alors que je peux avoir des lapins ici? Mais ils sont morts. Ils sont pourris, ils sont contaminés. Un temps, ils ont été bons. De même que la doctrine de luthériens, des luthériens, des Wesley et des pentecôtistes. Pourquoi mangez-vous comme un vautour? Toutes les nuits de la manne fraîche tombaient des cieux pour les enfants d'Israël lorsqu'ils voyageaient. Tout ce qui restait était contaminé, pourri. Dans le temps, nous avions l'habitude de dire que les vers s'y étaient mis. Il y a trop de ces vers dans nos expériences d'aujourd'hui. Nos religions dépendent de ce qu'un autre a dit et de ce que la promesse est pour quelques autres âges. Quelqu'un est venu me voir il n'y a pas très longtemps. C'est un prédicateur, Baptiste. Il est venu vers moi et m'a dit, je veux te corriger. J'aimerais simplement vous reprendre sur ce point. Il dit, je dis alors lequel? Dites-moi s'il vous plaît. Il dit, vous essayez d'enseigner une doctrine apostolique en cet âge alors que l'âge apostolique est terminé. Je dis, quoi? Quand donc? Je peux vous dire quand il a commencé et vous dites-moi quand il s'est terminé. Je dis, croyez-vous la parole? Il dit oui. Je dis très bien. Vous croyez que c'est le jour de Pentecôte que l'âge apostolique a commencé? Il dit oui. Je dis, alors, souvenez-vous que Jésus a dit, quiconque ôtera une parole à ceci ou y ajoutera une parole, sa part lui sera retranchée du livre de vie. Il peut très bien s'agir d'un prédicateur ou de quelqu'un dont les noms ont été inscrits dans le livre. Je dis, Pierre a dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés et vous recevrez le don de Saint-Esprit, car à vous est la promesse. Et à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Quand est-ce donc sorti? Cela a toujours été là. Il s'agit d'un tas de faucons qui se sont transformés. Quand est-ce que cela a été sorti? Qui se sont transformés en buses et sautillent autour de quelques carcasses mortes qu'un autre âge a tué pour eux. C'est vrai. Ils ne veulent plus de la manne fraîche venant des cieux. Ils ne veulent plus de cette nourriture fraîche. Non. Ils ne peuvent plus avoir de réunion de prière. Oui, ils ne peuvent plus supporter de réunion de prière. Dès le début, ce n'étaient pas des aigles. Ils sont mous. Ils ne sont pas robustes et se contentent de sautiller de ci, de là. C'est ainsi que nos dénominations s'appuient sur l'instruction et sur quelques théologie humaine pour expliquer ces choses. Et ils acceptent cela. Ils ne veulent pas prendre la parole qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ne veulent pas prendre Malachie 4 et ils ne veulent pas prendre toutes les autres promesses qui appartiennent à ce jour. Ils ne veulent pas prendre ce qu'a dit le prophète. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Ils ne prennent pas cela. Ils veulent sautiller autour de quelques organisations pentecôtistes qui a été tuées. Il y a des centaines d'années et mangent ainsi une manne à demi pourrie. C'est juste. Cela n'est pas bon. Remarquez que l'Église est tellement charnelle, se nourrissant d'une charogne terrestre et de ces choses mortes du monde, tout comme le fait le vautour. Les dirigeants de l'Église ne laissent pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une Église. Il faut qu'ils aient une politique pour voir si la dénomination va recevoir cet homme ou non. C'est juste, ils aiment le monde, ils s'habillent comme le monde, ils ressemblent au monde, ils agissent comme le monde, ils sont des vautours comme le monde. Ils sont paresseux, mous et font des compromis. Voilà où tout cela mène. Avez-vous déjà vu un nègre faire des compromis? Certainement pas. Il n'y a pas de compromis en lui. Il n'y en a pas non plus dans un chrétien authentique. Il n'est pas mou. Il chassera jusqu'à ce qu'il trouve sa nourriture. Amen. Certainement. Il trouvera sa viande. Il veut de la manne fraîche. Il descendra là-bas et se mettra à creuser jusqu'à ce qu'il la trouve. Il volera de plus en plus haut. S'il n'en trouve pas dans cette vallée, il s'élèvera un peu plus. Plus vous allez haut, plus vous voyez. Il est donc temps pour vous, les aigles de ce jour, de se mettre à voler plus haut et de creuser dans les promesses de Dieu. Et non de vivre de cette nourriture interprétée de vautours qui a été tuée il y a des années. Sortez de là. Les politiciens votent ceci, votent cela. Aujourd'hui, il y a la politique dans l'Église. Ils disent ceci ou cela, et encore cela. Et le Saint-Esprit n'a plus aucun droit dans l'Église. Il n'y a plus de réunion de prière. Il n'y a plus d'agonie dans la prière avec Dieu pour que s'accomplisse la parole. On ne croit plus que la parole est encore la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils se contentent d'agir comme des vautours, vont dans une dénomination, inscrivent leur nom dans le livre, deviennent paresseux et mous et s'installent là, et avides de corps pourrissants. Et tout cela alors qu'ils sont censés être au moins un faucon, c'est-à-dire un frère proche de l'aigle. Le prophète qui a apporté la véritable parole et qui l'a manifestée, il se confie en une théologie à demi pourrie, faite par l'homme. Où cela mène-t-il? À quelques écoles du dimanche instituées par l'homme et dont la feuille de programme est quelque chose de mort, qu'un éducateur a ramené de quelques séminaires et qui dit « Les jours des miracles sont passés, une chose comme le baptême du Saint-Esprit n'a jamais existé. » Tout cela est un non-sens. Prétendez-vous me dire qu'un aigle mangerait cela? Il ne pourrait pas le faire. Certainement, pas plus qu'un chrétien ne mangera de cette nourriture morte, à moitié pourrie. Provenant de ces vieilles doctrines dénominationnelles et toutes ces choses, ils veulent la parole de Dieu fraîche, la promesse de l'heure. Au jour de Luther, Dieu a promis des lapins. Au jour des autres prophètes, il a promis d'autres choses. Mais maintenant, il nous a promis un plein quartier de viande. Le menu complet du septième âge. Car les sept seaux ont été ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent la recevoir. La parole pour ce temps. Louez soit son nom pour cela. Voyez, ces faucons qui sautillent comme des buses. Oh mon Dieu, pensez à cela. Voyez combien cette heure est critique. Tout comme le faucon a depuis longtemps perdu son identité en tant que faucon. L'Église a depuis longtemps perdu son identité en tant que petit frère de l'aigle, que prophète de Dieu. Une fois qu'elle a porté une parole véritable, la justification, elle porte la sanctification, puis le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire la restauration des dons. Mais, si tandis que les choses avancent, elles restent en arrière et continuent de manger cette manne d'un autre jour, elles mangent quelque chose de pourri. Ce n'est pas bon. un authentique aigle de ce jour sait que c'était très bien avant, mais que nous avons cette chose en plus, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même soit manifesté dans la plénitude de sa puissance, comme il a promis que cela sera en ces derniers jours. L'Église est maintenant une enveloppe séchée, sèche. Donc la paille est l'enveloppe. L'Esprit de Dieu a passé au travers d'elle, c'est vrai. Mais elle n'héritera pas avec une semence parole authentifiée. Certainement pas. Elle ne sera pas enlevée. Il s'agira simplement d'un membre d'église qui participera peut-être à la seconde résurrection et sera jugé selon ce qu'elle aura entendu. Si vous êtes ici ce soir, simplement en tant que membre d'église, comment serez-vous jugé lorsque nous devrons tous nous tenir là-bas et témoigner que nous avons entendu la vérité? Vous voyez, l'Église ne vole plus dans les cieux, dans l'inconnu, dans le surnaturel, dans ses hauteurs, là où se trouvent les puissances et les promesses de la parole de Dieu, là où toutes choses sont possibles. Là où la parole de Dieu, éternelle de Dieu, qui a rendu toutes choses possibles à ceux qui croient, est manifestée. L'Église ne veut pas croire cela. Elle retourne se percher sur un fil de téléphone et dit, ma dénomination a dit que les lapins étaient bien suffisants. Et cela bien que ces lapins aient des asticots, des vers, mais ils lui conviennent très bien, vous voyez.
C'est de ça qu'elle dépend. Même s'il y a des vers là-dedans, non, elle dit ça me convient bien. La Pentecôte est comme son frère dénominationnel, le vautour qui siège maintenant dans le grand concile des impies. Elle écoute son chef politique mondain et se nourrit d'une nourriture de vautour, c'est-à-dire de lapin mort ou de quelque chose qui est passé depuis 50 ans. C'est cela la condition de l'Église pentecôtiste. Oh mon Dieu! Tout comme Sarah a essayé d'obtenir la promesse surnaturelle en manœuvrant Agar, l'Église a essayé d'apporter un grand réveil. Et aujourd'hui, nos grands évangélistes parcourent les pays en disant le réveil de notre temps, le réveil de notre temps. Vous tous, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, réunissez-vous tous. Comment pouvez-vous avoir un réveil de manne fraîche sur un vieux vautour mort? Comment est-ce possible? Le réveil de notre temps, le réveil avait dû être tellement petit qu'il ne s'était même pas rendu compte qu'il était déjà arrivé. Les pentecôtistes disent, oh, une grande chose doit se passer. Elle est en train de se passer et ils ne le savent même pas. Mais là où se trouve la viande fraîche, c'est là que ça semble les aigles. C'est ce qu'il est dit. Qu'est-ce que c'est que la viande fraîche? C'est la parole et il est la parole. Christ en vous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme cela est vrai. Vous voyez, comme Sarah essayait d'obtenir les promesses, tout accompli, vous voyez. Tout comme l'Église aujourd'hui qui essaye de faire un grand réveil. Et cela, par quel moyen? Par une promesse pervertie dont on a tordu le sens. Que comptez-vous faire lorsque vous verrez que Dieu n'a jamais béni les organisations? Il ne s'est jamais servi d'une organisation. Lorsqu'un message allait de l'avant et qu'il l'organisait, ce message mourait là, au point où il en était. Je défie n'importe quel historien de me montrer où un tel message a pu se révéler, se relever. Il mourait là et restait au point où il était. Dieu se déplaçait simplement de cette enveloppe pour aller dans une autre. Il sortit des luthériens pour aller chez les méthodistes. Il sortit des méthodistes pour aller chez les pentecôtistes. Il vient maintenant de sortir des pentecôtistes pour entrer dans le grain. Car l'Église doit être le grain lui-même, la semence. Vous ne pouvez pas aller contre la nature. Il ne peut rien arriver d'autre que le grain lui-même, la semence elle-même. La semence, le grain lui-même va se reproduire donc lui-même. La semence se produira donc elle-même. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la même colonne de feu montrant les mêmes signes, la même puissance, les mêmes miracles, les mêmes choses. ce même Dieu authentifié, manifesté à la lettre, la parole et la Bible. Authentifie à la lettre, la parole et la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ce soir. C'est lui qui nous conduit, que Dieu nous aide à le voir et à le croire, certainement. Vous voyez, Sarah, c'est-à-dire l'Église, en train de manœuvrer Agar. Cela n'a pas marché, n'est-ce pas? Non, son groupe manipulé ne marchera pas aujourd'hui, non plus. Tous ces gens qu'on appelle docteurs en ceci et en cela, cela ne peut pas marcher. Toutes ces enveloppes ont manqué cela. Luther a manqué cela. Agar aussi. Que fit Agar? Agar mit son fils au sein d'une autre femme. Est-ce juste? Afin qu'il puisse être élevé. Agar fit cela. Elle donna son fils unique, et le plaça sur le sein d'une autre femme, une femme qui n'était pas sa mère, pour qu'il soit élevé. Luther fit la même chose lorsqu'il donna son fils, la justification, à une dénomination pour qu'elle s'en amuse. C'est exactement cela, pour qu'elle l'élève. Wesley Thomas, de la même manière que Sarah, lorsqu'il douta du surnaturel, du baptême du Saint-Esprit, il douta comme Sarah le fit lorsqu'elle était sous le chêne. Sous le chêne. Lorsque vint l'âge pentecôtiste et qu'on présenta à Wesley le parler en langue en toutes et toutes ces choses, les Wesleyens rirent et se moquèrent de cela. Vous, toute l'Église de Christ, vous prétendus baptistes, presbytériens, vous êtes tous détournés de cela et avez fui. C'est vrai. Qu'as-tu fait, Wesley? Tu as vendu ton enfant à une dénomination et il est mort. Il a dépéri. C'est exactement cela. Mais la parole, la véritable parole, a continué. Elle n'est pas restée dans cette organisation. Elle est entrée directement dans le pentecôtisme et a pris quelque chose de plus là-dedans. C'était alors un fils plus proche de la maturité, comme la graine qui tombe dans la matrice. Après cela, la colonne vertébrale commence à se former, puis viennent les poumons, la tête, les pieds. Il en arrive ensuite au point de la naissance. C'est juste. Et c'est ainsi que l'Église a mûri. Elle a mûri de la même manière. Wesley a douté, tout comme Sarah a douté, sous l'arbre. L'ange du Seigneur vint. C'était un ange habillé comme un homme. C'était Dieu lui-même, Elohim, habillé comme un homme. Il se tenait là, les vêtements poussiéreux. Et il apporta cette promesse alors que Sarah avait 90 ans et Abraham 100 ans. Et Sarah rit sous cap et dit, comment cela se pourrait-il alors qu'Abraham et moi-même ne sommes plus des jeunes gens et que nous n'avons plus eu de relation depuis 20 ans. Elle avait presque une centaine d'années. Elle dit, comment pourrais-je avoir du plaisir avec mon Seigneur alors qu'il est vieux et moi aussi. Il n'a plus de sève en lui et ma matrice a desséché. Je n'ai plus de poitrine. Les glandes mammaires ont disparu. Comment pourrais-je avoir un enfant? Dieu avait dit, je l'ai promis. Il viendra de toute manière. Wesley fit de même. Comment pourrons-nous accepter qu'il parle en langue, qu'ils aient la guérison divine et tout se fatra? Ce n'est pas pour notre temps. Mais Dieu a dit, j'ai promis que dans les derniers jours, je dévasterai de mon esprit sur toute chair. Il a promis de le faire. Il a continué et l'a fait de toute façon. Et l'Église wesleyenne, ainsi que toutes ses petites sœurs paulaines, que sont les baptistes, les presbytériens, l'Église de Christ, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les frères unis et tous les autres moururent avec cela. Et l'Église continua son chemin. Maintenant, que fit la Pentecôte? Elle s'organisa, tout comme la paille. Elle fit la même chose. Elle s'organisa, s'installa comme la paille. C'est juste. La Pentecôte fut comme Marie. Regardez ce que fit Marie lors de la fête de Pentecôte. Que fit Marie de faux? Un jour, lors d'une fête de Pentecôte, elle fut confrontée à un tas de dignitaires et de prêtres lorsqu'elle s'aperçut qu'elle ne pouvait le retourner le retrouver nulle part. Et elle refit en arrière le chemin de 3 journées de voyage. Elle l'avait laissé en arrière, comme le fait l'Église moderne d'aujourd'hui depuis 50 à 75 ans. Elle l'avait laissé lors de la fête de Pentecôte. Marie retourna en arrière avec Joseph et le chercha pendant 3 jours. Elle l'avait cherché et ne pouvait pas le retrouver. Puis elle le retrouva. Que découvrit-elle? Elle le trouva dans le temple en train de discuter de la parole de Dieu avec les prêtres. Et juste face à ces prêtres, ces dignitaires, Marie, donc, justement, face à ces prêtres, ces dignitaires, Marie laissa tomber le rideau. Elle fit exactement la chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle s'appela la mère de Dieu. Une mère devrait avoir plus de sagesse que son fils. Et elle dit, ton père et moi t'avons cherché en pleurant jour et nuit. Et par cela, elle prétendait que la naissance n'était pas surnaturelle, que Joseph était le père de Jésus. Elle renia la naissance surnaturelle. La Pentecôte, elle renia la naissance surnaturelle, la naissance dans un état de vierge. La Pentecôte s'empara du parler en langue. Ils ont fait la même chose. Et ils renièrent la naissance de la parole. C'est exactement ce qui arriva. Ils en prennent une certaine partie, mais ne veulent pas en prendre le reste. La Pentecôte renia la naissance de la parole, tout comme le fit Marie. Mais observez, il n'y aura plus d'organisation après cela. Observez, c'était la parole elle-même. Il avait à peine 12 ans et il dit, en corrigeant, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Juste là, la parole corrigeait l'Église. Pourquoi faites-vous toutes ces choses? Vous savez que vous ne pouvez pas faire cela. Nous vous fermerons nos portes. Nous ne vous laisserons pas entrer. La parole a corrigé l'Église. Car ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Oh oui, c'était la véritable fascination du surnaturel. Elle prétendit qu'il n'était pas le fils de Elle prétendit donc qu'il n'était que le fils de Joseph, c'est-à-dire un simple homme. Or, que fit la Pentecôte? Elle prétendit qu'il n'était que l'un des trois. Oh, je sais que cela blesse. Mais ils étaient les trois en un. Mais la Pentecôte dit, « Oh oui, il est le Fils du Père, du Saint-Esprit. » Oh mon Dieu, mais la véritable parole parle clairement et dit, « Il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. N'en faites pas trois, mais un seul. » Remarquez qu'il n'y aura plus de porteuse, plus d'église mère, plus de dénomination après cette enveloppe porteuse, après cette paille-ci. Car après la paille, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien après cela. Si ce n'est que le grain, est-ce juste? Il doit y avoir le grain. Il doit y avoir la même sorte que celui qui a été jeté en terre. C'est-à-dire celui qui est le même. Hier, je dis le même. Le même qui a été jeté en terre. Le même Jésus. La même sorte. L'Esprit vint sur l'épouse afin de faire les mêmes choses qu'il fit. Vous voyez, il s'agit de nouveau de la reproduction du grain. Bien qu'elle fût jeune, la parole parlait pour elle-même. Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? C'est cela le secret du message d'aujourd'hui. Il s'agit exactement des affaires du père. Que sont les affaires du père? Pouvez-vous imaginer que ce qu'étaient les affaires du père pour lui? C'était d'accomplir ce qu'avait dit Ésaïe, une vierge concevra. Il fallait aussi accomplir ces paroles d'Ésaïe. Les boiteux sauteront comme un cerf. Et toutes ces choses qui devaient arriver. Moïse avait dit, le Seigneur, votre Dieu, suscitera d'entre vous un prophète comme moi. Les affaires du Père consistaient à accomplir cette parole. Eh bien, si cela a pu venir au travers de cette tige, que sont les femmes naturelles? Que sera-ce avec ces femmes spirituelles, les églises? Les femmes typifient les églises. Est-ce juste? Qu'en est-il donc maintenant? Nous devons aujourd'hui nous occuper des affaires du Père. Le blé, le grain va se mettre à crier. Certainement, que doit-il faire? Il doit authentifier Malachie 4. Il doit authentifier Luc 17, verset 30. Confirmé, donc identifié, confirmé. Hébreux 13, verset 8, confirmé. Jean 14, verset 12, confirmé. Il doit confirmer toute sa parole. Il doit authentifier, confirmer le chapitre 10 d'Apocalypse sur la révélation des sept sceaux. Tous les mystères de Dieu, même la semence du serpent, doivent être manifestés. Mariage et divorce et tous ces autres mystères qui ont été cachés pendant toutes ces années aux théologiens et à tous les autres. C'est l'heure maintenant. Ce sont là les affaires du Père. Mais pensez-vous qu'il aimerait le recevoir? Non, ils veulent en imposer et dire notre dénomination ne nous enseigne pas cela. Mais la Bible le fait, justement. C'est juste. Dieu prouve que c'est vrai, certainement. Cet âge est en train de s'accomplir alors que les sept sceaux prouvent que les dénominations n'ont été que des enveloppes. C'est là une autre des affaires du Père. Aujourd'hui, l'affaire du Père est de vous montrer que leurs dénominations ne sont pas de lui. Ce sont des systèmes faits par les hommes et qui renient la parole. C'est juste. Remarquez, vous dites, eh bien, et Marie, la glorieuse Vierge, à la croix, il ne l'a jamais appelée mère. Il l'a appelée femme, c'est-à-dire porteuse. Elle était une enveloppe, non une mère, certainement. Elle était l'enveloppe, la porteuse de la parole. Mais elle n'était pas la parole. Lui était la parole. Oh oui. Remarquez aussi qu'elle ne fut pas identifié avec lui dans la résurrection. Il mourut et ressuscita car il était la parole. Elle était simplement une enveloppe. Elle est morte et se trouve toujours dans la tombe. C'est juste. Elle n'était donc qu'une enveloppe. Elle n'était pas la mère. Elle n'était pas Dieu. Elle était simplement une enveloppe comme le sont les églises. C'est juste. Tout cela montre qu'elle était simplement une enveloppe et non pas la parole. Terminons en disant ceci. Oh, je m'adresse à vous, faucons pentecôtistes, qui sautillez de ci, de là, comme des vautours, ne prenant qu'une partie de la parole comme le font les autres. Vous avez une forme de piété suffisante pour tromper même les élus. Si cela était possible, vous prenez part aux choses du monde, vous avez encore l'esprit du monde. Vous avez une forme de piété, mais vous en reniez la puissance, comme le dit le prophète qui montre en parfait exemple ce que dit parole de Dieu. Vous avez une forme de piété suffisante pour tromper même les élus, si cela était possible. Mais vous en reniez la puissance, comme le dit le prophète ici, montrant un parfait exemple de ce que dit la parole de Dieu. Elle dit qu'au dernier jour, ce serait l'âge de l'église de Laodicée, une église nue, aveugle, misérable, pauvre, malheureuse, et ne le sachant pas, mais prétendant être grande, en bonne santé et n'ayant besoin de rien. Elle ne sait pas que du faucon qu'elle était, c'est-à-dire un frère semblable au prophète qui garde droitement la parole de Dieu, elle est devenue un vautour et nourrit son peuple de lapins ecclésiastiques morts. C'est parfaitement juste. Réveillez-vous. Oh, comment pouvez-vous vous attendre à être identifié avec les aigles et à hériter avec eux, alors que de telles choses se passent dans cette heure décisive et que l'enlèvement est si proche? Oh, chrétien, croyant, si vous n'avez cru qu'en partie, restez encore un petit moment à la réunion. Nous avons quelque chose ici et je crois que le Seigneur veut que vous le connaissiez. Il est tard. Je ne peux pas continuer en ce moment, mais je dois m'arrêter et je finirai peut-être demain soir. Maintenant, inclinons nos têtes juste un moment. Je ne veux pas que vous fassiez attention à la grammaire que j'emploie. Mais j'aimerais que pendant une minute, vous preniez garde à ce que j'ai dit. J'espère que c'était assez clair pour que tous l'aient compris. Je suis sûr que c'est suffisamment clair pour que vous le compreniez si vous le désirez. Si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez pas fait cette expérience, vous dites, j'ai dansé dans l'esprit. J'ai sauté de ci, de là. Oui, les faucons font la même chose. Ainsi que les corneilles et les vautours.
Ce n'est pas cela que je demande. De quoi vous nourrissez-vous? Où allez-vous chercher votre nourriture quotidienne? Où allez-vous la chercher? De quoi vous nourrissez-vous? C'est ce que je demande. De la parole de Dieu ou de quelques vieilles viandes pourries qui a été utilisée il y a des années et des années? Ou bien des choses qu'on dit être la parole de Dieu? Votre expérience de ce soir repose-t-elle sur quelque chose que vous avez ramassé il y a des années? Ou bien est-elle fraîche et neuve de ce soir? Est-ce une manne nouvelle qui vient de tomber du ciel, avec laquelle vous nourrissez votre âme en attendant que demain vous apporte quelque chose de mieux, de meilleur?
Si ce n'est pas le chemin que vous suivez,
adressez cette demande sincère tandis que vos yeux sont fermés et vos têtes et vos cœurs inclinés. Oh Dieu, posez-vous la question. Oh Dieu, conditionne mon âme et mon esprit de telle manière que je puisse me nourrir seulement de la parole de Dieu. Faites cette demande, non à moi, mais à Dieu. Voulez-vous lever votre main en témoignage de ce que vous demandez cela? Levez simplement les mains et dites que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je ne sais pas exactement combien vous êtes ici ce soir. Je ne sais pas apprécier une foule, je ne sais pas estimer une foule, mais je peux dire qu'il y en a au moins un tiers qui ont levé la main pour témoigner de ce qu'ils veulent que Dieu, que leur âme soit conditionnée, soit bien disposée à le faire. Souvenez-vous, souvenons-nous de cela dans la prière, tandis que nous inclinons maintenant nos têtes. Dieu bien-aimé, j'ai simplement la responsabilité de dire la parole. Et par ces simples paraboles, ces types, les gens peuvent voir que l'un n'héritera pas avec l'autre. Et nous savons qu'en ces derniers jours, il y aura des gens qui seront enlevés dans les cieux. Et certains seront ici lorsque Jésus viendra. Et nous nous attendons à ce que sa venue puisse avoir lieu même ce soir.
Père Céleste,
je suis seulement responsable d'avoir prononcé ta parole. Et par ces comparaisons simples et ces types, que les hommes puissent voir et comprendre que l'un n'héritera pas avec l'autre. Non. Dans les derniers temps, il y aura des gens qui seront enlevés au ciel. Mais il y en a qui resteront quand Jésus reviendra. Et nous attendons à son retour même ce soir. Je me souviens qu'il y a encore 30 ou 33 ans, je me trouvais agenouillé ici à peu près de la même heure, à la même heure, aux alentours de 9h30 ou 10h du soir, et je priais pour mon père qui était perdu. Ce soir, Seigneur, je prie pour beaucoup de pères, beaucoup de mères, de frères, de sœurs. N'auras-tu point miséricorde, Dieu bien-aimé, il est maintenant trop tard pour que je puisse faire quoi que ce soit pour mon père. Il est passé de l'autre côté de cette vie. Et maintenant, Seigneur, nous devrons tous passer par ce chemin. Je devrais moi aussi passer par ce chemin. Chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille ici devra passer par ce chemin. Et nous devrons rendre compte de ce que nous aurons fait de la parole de Dieu.
Combien cet homme qui cracha sur David dut-il lui paraître petit?
Combien cet homme qui cracha sur Jésus, la parole qui le persère, lui paraîtront-ils petits? Ils n'ont pas compris qu'il était la parole. Combien ces gens, ils n'ont pas compris qu'il est la parole qui reviendra. Ils vont regarder à lui qu'ils ont percé. Alors qu'ils avaient pu voir que non seulement ces paroles grecques, mais la nature entière parle de Dieu, le Créateur. Ils avaient pu voir les enveloppes, les porteuses de la parole et la parole elle-même. Et ils savaient que l'heure dans laquelle nous vivons est le temps de la moisson. Dieu bien-aimé, ne nous laisse pas retourner en arrière pour quelques folies du monde, mais laisse-nous le recevoir ce soir de tout notre cœur. Seigneur, crée en moi un bon esprit, l'esprit de vie, afin que je puisse croire toutes tes paroles et accepter Jésus, la parole qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, afin que je puisse croire aujourd'hui la portion de la parole qui a été impartie pour cet âge, qui a été prévue pour cet âge. Accorde, Seigneur, que je puisse croire toute ta parole. Je te le demande au nom de Jésus, crée ta vie en nous, en moi. Et maintenant, je vais demander à tous ceux qui sont ici et qui pensent être sincères. Nous n'avons pas d'église à laquelle vous puissiez vous joindre. Nous avons un bassin là en bas dans lequel vous pouvez être baptisé. Tous ceux qui crurent furent baptisés. Vous avez peut-être déjà été baptisé d'un baptême chrétien. Il ne s'agit pas de répandre quelques gouttelettes ni de verser un peu d'eau comme cela. Il s'agit d'être immergé, non dans les titres du Père, Fils et Esprit, mais dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que l'Église entière fut baptisée jusqu'à ce que en 303 l'Église catholique introduise trois dieux et cette forme de baptême dans la Trinité. Si vous n'avez pas encore reçu ce baptême, des robes et toutes ces choses vous attendent là en bas demain matin à 10h. Ne voulez-vous pas venir et vous joindre à Jésus-Christ? Non à nous. Nous n'avons même pas d'église ici qui puisse prendre soin de vous. Quel que soit l'endroit d'où vous veniez, allez dans n'importe quelle église que vous voulez. Mais s'il vous plaît, croyez seulement les Écritures, la parole de Dieu. Si vous croyez cela, dites Amen. L'Assemblée répond Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour vous aider, nous sommes là pour le faire. Maintenant, je sais qu'il y a des malades ici. Il ne nous reste plus de temps ce soir pour la ligne de prière. Mais peut-être aura-t-elle lieu malgré tout. J'aimerais que chacun de vous fasse quelque chose pour moi. Posez vos mains sur la personne près de laquelle vous êtes assis. Et ne doutez pas, c'est un aigle, c'est sur un aigle que vous posez les mains. Il s'agit peut-être d'un aigle qui a mangé de la nourriture de vos tours quelque part là-bas et qui s'en est rendu malade. Les aigles ne veulent plus de cela. Les aigles veulent sortir de cela. Ils s'en sont rendus malades et en sont fatigués. Installez-vous ici ce soir et voyez ce que les aigles sont vraiment capables de manger. C'est la parole qu'ils peuvent manger. Et le Christ vivant peut habiter au milieu d'eux et prouver qu'il est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne veulent pas être cohéritiers avec la paille. Celle-ci est destinée à être brûlée. La paille doit être brûlée, ainsi que toutes ces choses. La moissonneuse, batteuse, va venir faire sortir le grain. Que le Seigneur soit avec vous. Certainement, certains de ces aigles sont malades, certains sont physiquement malades. Je veux donc que vous priez. Vous, aigle, priez pour votre frère aigle, sœur aigle ici, priez pour cette personne. Que l'Église, que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Souvenez-vous que c'est de la nourriture d'aigle que je vous donne. La promesse de Dieu, ses prophètes, il les a appelés des aigles. Il s'appelle lui-même un aigle. Il est Jéhovah aigle. Tandis que vos yeux sont posés les mains sur les autres, que vos mains sont posées les mains sur les autres. Priez pour eux. Notre Père Céleste, dans ta parole, le dernier commandement que tu donnas à ton église, il est écrit, allez dans le monde entier, allez partout dans le monde et prêchez l'évangile. C'est un ordre général. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. S'ils boivent ou mangent quelque chose de mortel, ils n'auront point de mal. S'ils saisissent des serpents, il ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, ils guériront. Ô Jéhovah, aigle, veille nourrir tes petits de ta parole ce soir. Ils sont dans le besoin. C'est de cette nourriture qu'ils ont besoin. C'est de cela qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de connaître ce qu'est cette nourriture, de savoir quel est le... Ainsi dit le Seigneur. Tu as promis que s'ils imposent les mains les uns aux autres, ils seront guéris. Ô Seigneur Dieu, ôte maintenant tous les doutes de toutes les idées et toutes les idées de vautours du milieu de nous. Et nous voulons solennellement distribuer cette nourriture d'aigle, la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur, que tout esprit impur se trouvant parmi ce peuple, tout esprit de doute, de crainte, toute revendication dénominationnelle, toute maladie, tout malaise qui se trouve parmi le peuple disparaisse. au nom de Jésus-Christ, tout esprit avec des habitudes différentes et toutes sortes de choses, que cet esprit religieux sorte de ce groupe de gens. Puisse-t-il être libre dès maintenant afin de pouvoir manger cette nourriture d'aigle que nous croyons que tu nous as envoyée pendant cette semaine, Seigneur, lorsque tu as ouvert ces seaux et que tu nous as révélé ces mystères qui avaient été cachés dès la fondation du monde. Comme tu l'avais promis, ce sont les tiens, Père, au nom de Jésus-Christ, nous te les remettons. Amen. Que tous ceux qui ont cru et accepté se lèvent et disent, nous aussi nous voulons nous lever. Je crois, j'accepte cela. Ce que Dieu m'a promis, je le reçois. Que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux. Tout le monde est debout. C'est bien. Faites un accord. Je l'aime. Comment saurez-vous, comment le monde saura-t-il que vous aimez Jésus lorsque nous nous aimons les uns les autres? C'est ainsi que le monde saura. Vous voyez, Dieu voit votre foi et le monde voit vos actions. Il voit vos actions. Maintenant, aimez-vous les uns les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Parlez-vous les uns aux autres. Soyez patients les uns avec les autres. Parlez les uns avec les autres. Toutes les autres instructions que nous pouvons donner sur le baptême et la recherche du Saint-Esprit. Nous n'avons pas de pièces ici pour faire cela. Vous comprenez? Nous pouvons faire un appel à l'autel. Si Dieu vous a convaincu que cela est juste, que Jésus-Christ est le même Jésus éternellement, alors venez et soyez unis avec lui et laissez-vous baptiser. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que nous pouvons faire pour vous aider, nous allons le faire. Chantons cela.
I love him. Love him. I love him because he first loved me. Raise your hand. And he told him to hold on singing.
Il